RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Bonjour Véronique Rigolet.
Bonsoir.
Bonjour Clémentine Autain, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et donc notre invitée aujourd'hui.
Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Vous l'avez noté comme nous, les ministres européens du travail se sont mis d'accord hier soir pour corriger, je vous vois déjà faire la moue, mais en tout cas pour corriger cette très controversée directive sur les travailleurs détachés. Un durcissement, voilà ce qui a été décidé hier soir, dont s'est immédiatement, en tout cas dès ce matin, félicité le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui salue tout à la fois une victoire de la France et du président Macron. On l'écoute.
Il s'agit, je crois, d'une victoire pour le droit des travailleurs, pour la lutte contre le dumping fiscal. Mais il s'agit aussi de la victoire d'une méthode. Il y a certains qui ont utilisé
les Macron, vous voulez dire
certains ont utilisé les travailleurs détachés, y compris pendant toute la campagne, pour dire « Ah, l'Europe ». La réalité, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron a dit « Je ferai changer ». Le statut des travailleurs détachés pour protéger les travailleurs, tous les travailleurs, mais aussi les travailleurs français. Et donc, il y a eu plusieurs mois d'actifs négociations, la tournée qu'il a fait à la fin de l'été dans les pays européens, des moments de tension, notamment avec la Pologne, mais aujourd'hui, un accord. Mais un accord pour tous, un accord pour l'Europe.
Voilà, est-ce que c'est un bon accord? Ça fait longtemps que chacun, en tout cas chez vous, souhaitait voir rectifier cette directive sur les travailleurs détachés. Est-ce que vous pensez, comme les syndicats, comme EFO, comme la CGT, que ça va à tout le moins dans le bon sens, même si ça règle pas tout?
Écoutez, on a envie de dire tout ça pour ça. Monsieur Castaner a expliqué les efforts déployés par le président de la République pendant des mois pour arriver à une situation qui n'est absolument pas satisfaisante. Pourquoi? La question n'est pas réglée. C'est de la poudre de perlimpinpin, si vous voulez, pour reprendre le terme qu'aime bien notre Jupiter de président. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ces travailleurs détachés? Vous allez avoir des cotisations sociales qui vont continuer à être en référence avec le pays d'origine. Donc le dumping, il va continuer d'exister, puisque le salaire pour l'entreprise ne va pas être le même.
On parle d'une correction.
C'est une correction, mais le dumping va continuer à s'exercer. Deuxièmement, vous avez les routiers, et c'est pas rien, qui sont exclus de l'accord. C'est très important, ces routiers qui sont exclus de l'accord, parce que aujourd'hui, je vais prendre un seul exemple, si vous avez un routier roumain, il gagne 200 euros par mois. Comment voulez-vous que, dans notre système français, on puisse être compétitif? Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut une harmonisation à bien plus grande échelle, de bien plus grande ampleur, et de permettre d'éviter de mettre en concurrence les salariés. Et rien n'est fait pour la fraude. Contrairement à ce que dit le gouvernement, on reste dans les clous qui étaient ceux qui étaient déjà définis auparavant. Alors qu'il faudrait davantage de contrôle pour éviter toute forme de fraude. Et je ne vous parle pas des délais, un peu ridicule, puisqu'on nous dit, regardez, ce sera pour un an et non plus... en réalité,
et à partir de 2022.
Façon, bien sûr, et à partir de 2022, n'en parlons pas. Alors, les délais sont extrêmement longs, mais là, je parlais du délai du contrat. Compris. Il y a deux choses, sur le délai du contrat.
Les pays de l'Est ne voulaient absolument pas en entendre parler. On a fait un premier pas hier soir à Bruxelles.
Non, ce que je veux juste dire, c'est que ce sont d'énormes efforts pour modifier à la marge une question qui est importante, mais une question parmi tant de questions sur la concurrence généralisée qui est en train de s'organiser à l'échelle européenne. Donc, vous voyez, je pense que le compte n'y est absolument pas et qu'on pourrait parler de tant de sujets dont ne se préoccupe pas ou peu le président de la République. Je pense par exemple au CETA, qui est un traité de libre-échange avec le Canada qui va totalement bouleverser des normes environnementales, des normes en matière de principes de précaution, des normes en matière aussi de souveraineté d'un État, puisque maintenant une multinationale avec ce CETA pourrait saisir un État qui prendrait des mesures sociales contraires à son intérêt économique. Je ne sais pas si vous voyez où on va, et tout cela se fait dans le dos des peuples, dans le secret de la diplomatie des États. Et je prends le CETA, mais il y a évidemment de très nombreux sujets qui aujourd'hui empêchent des politiques progressistes de se mener. Permettez-moi un autre exemple encore. Puisque nous avons voté contre le budget, notamment la partie sur les recettes. Oui. On vient de le faire aujourd'hui même.
Absolument.
Et par exemple, il y avait une taxe, la fameuse taxe de 3% sur les dividendes. Et elle n'est pas possible parce que l'Union européenne interdit ce type de taxe.
Donc l'Europe, imaginez, qui protège
les riches.
Emmanuel Macron.
Non, mais pour l'instant, c'est une Union européenne, c'est pas l'Europe. C'est l'Union européenne, dans ses traités qui sont des traités néolibéraux, empêche y compris un État de mener une politique progressiste. Je vous donne l'exemple des 3% sur les dividendes, puisque maintenant, y compris les patrons nous disent, les grands patrons disent, l'État français doit 10 milliards d'euros en rétrocession à ceux qui, tout simplement, font de la rente, tiennent des dividendes sur le dos de celles et ceux qui travaillent.
Nouveau cheval de bataille, l'Europe, c'est...
D'abord, c'est pas nouveau, vous savez, moi j'ai mené...
En tout cas, ces derniers jours, faute de mobilisation dans les rues, pourrait-on dire, on vous a vu beaucoup attaquer l'Europe, entre le problème du drapeau européen dans l'hémicycle, le problème du mécanisme de solidarité. On a entendu Jean-Luc Mélenchon dire « I want my money back ». Mélenchon faisant du Thatcher, c'est croquignolesque, pour reprendre une expression aussi.
Non, ce que nous disons...
Que vous aimez, il y a vraiment une offensive particulière maintenant,
pour
faire oublier des déboires par ailleurs.
Notre ennemi, ce n'est pas l'Europe en tant que telle, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon européenne. L'a rappelé hier, c'est le néolibéralisme et cette mondialisation qui est au service des intérêts de la finance et non pas des peuples. Et donc oui, s'il faut choisir entre les peuples et les traités, nous choisissons les peuples. C'est ce que nous disons.
Mais ça, on sait bien.
Vous le savez, à l'échelle d'une globalisation...
On a l'impression qu'il y a une offensive un peu généralisée contre l'Union européenne en ce moment dans...
C'est-à-dire que c'est plutôt dans l'autre sens. Ouais. C'est les exemples que je vous donnais montrent
l'Union européenne vous agresse
la difficulté aujourd'hui de sortir de la casse du droit du travail, de la marchandisation de tout et n'importe quoi, de la concurrence généralisée entre les peuples. Et on voit bien que aujourd'hui, la façon dont cette Union européenne s'est construite empêche ce type de politique. Mais elle se fait grâce à des États qui, évidemment, sont consentants.
Alors vous avez...
c'est là où, vous savez, quand nous disons plan A, plan B, faisons très attention. On est pour un plan A et on veut que le plan A réussisse. Parce que croire qu'à l'échelle internationale, on va s'en sortir juste en se repliant dans nos frontières nationales, malheureusement, c'est complexe, voyez bien, c'est évident. Donc, il faut pouvoir mener des politiques à l'échelle nationale qui soient progressistes et dans le même temps, travailler à des convergences européennes qui nous permettent de taper du poing sur la table et de construire différemment les solidarités, les coopérations nécessaires.
Mais on voit les efforts que ça réclame pour changer, même à la marge, une directive sur les travailleurs détachés.
C'est bien ce que j'étais en train de vous dire.
Vous feriez fort de tout bouleverser le système.
Je pense que si la France... taper du poing sur la table en disant écoutez,
ça, on l'a déjà entendu ce genre de discours, taper du poing sur la table au niveau européen, ça a rarement marché.
Vous avez vu quelqu'un qui l'a fait, mais qui?
Mais vous avez critiqué François
Hollande. Mais où a tapé du poing sur la table? Mais personne.
Vous avez critiqué François Hollande et vous dites en gros que Emmanuel Macron fait peut-être pire.
Oui, parce que François Hollande, il avait dit « Ah, je vais aller voir Merkel, elle va voir ce qu'elle va voir ». Il mettait en cause le traité Merkozy. À peine élu, il s'est passé quelques semaines, il est allé voir Angela Merkel, il a tout signé. Voilà ce qui s'est passé.
Et Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron, il n'a jamais promis qu'il taperait du poing sur la table et il veut relancer le couple franco-allemand sur des bases qui sont des bases correspondant totalement à la logique des traités, ce qui est la logique de sa politique. C'est une politique au service des riches, au service du monde de la finance et donc il se sent très à l'aise dans cette Europe telle qu'elle s'est construite. Donc voilà son objectif, c'est s'inscrire, se mouler dans ces normes européennes quand nous disons qu'il faut les contester, et je reviens sur taper du poing sur la table, on peut changer d'expression, j'ai pas de problème avec les expressions.
Si
la France disait, écoutez, maintenant, ça suffit la règle d'or, ça suffit la concurrence généralisée, je vous assure que aussi parce que c'est le poids de la France, qui n'est pas tout à fait la Grèce, les choses iraient sans doute différemment, et nous trouverions peut-être des partenaires, je pense par exemple au Portugal, mais on ne sait pas, le temps allant peut-être d'autres pays, et il le faut, tout simplement s'allieraient pour réorienter profondément, pas à la marge, pas simplement pour mettre un peu de cosmétique sur les travailleurs détachés, mais au contraire pour changer l'objectif même de cette Union européenne, c'est-à-dire en fait du sens à être ensemble.
Mais là où vous avez vraiment voulu taper du poing sur la table, c'est notamment dans la rue. On a vu des mouvements contre la réforme du code du travail. Ça s'est essoufflé. On a entendu parler d'un million de personnes sur les Champs-Élysées. On les attend toujours, ça a fait pchit, il faut bien le dire.
Alors, faisons très attention.
Jusqu'à maintenant.
Parce que on sait jamais le moment où ça part. Ah, et oui. Que honnêtement, on était parti sur les ordonnances sur la loi travail, qui sont gravissimes. Chemin faisant, si j'ose dire, on a eu toutes les mesures, les milliards de cadeaux qui ont été donnés par le biais de la réforme de l'ISF aux plus riches, qui quand même mettent en colère et à raison. Nous avons eu également la loi de sécurité intérieure.
La contestation s'essouffle, c'est incontestable.
Oui, mais je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ce gouvernement agit dans un sens qui n'a pas de majorité sociale d'idées dans ce pays. Donc vous avez un petit problème démocratique un peu explosif et qui pose d'ailleurs la question.
Et comment vous expliquez dans ce cadre-là le manque de mobilisation en fait?
Il n'y a pas toujours une corrélation dans l'histoire. D'abord, il n'y a pas toujours de corrélation entre
corrélation,
une critique du pouvoir en place et le fait qu'il y ait des mobilisations d'ampleur. Et ensuite, vous aurez remarqué, à travers l'histoire également, que par exemple, en avril 68, la France s'ennuyait, qu'avant novembre-décembre 95, je m'en souviens personnellement, au mois d'octobre, on trouvait que la situation sociale, politique était très atone. Quelques semaines après, le pays était bloqué, Paris sous la neige, il n'y avait plus de métro, tout le monde marchait à pied pendant des semaines et des semaines. Donc moi, je vous dis juste que la situation de ce pays est instable sur le plan politique. Il existe une colère sociale grandissante et qu'on ne sait pas exactement quel va être le chemin qui va permettre de transformer cette colère en espoir.
Vous vouliez le montrer, Jean-Luc Mélenchon s'en est voulu le chantre et il est déçu aujourd'hui.
Bah oui, bien sûr, mais alors, ça n'empêche pas d'être déterminé, ça n'empêche pas de continuer à vouloir convaincre, ça n'empêche pas de dire aux syndicats, nous sommes disponibles.
Il est un peu amer avec les syndicats d'ailleurs. Mais c'est pas une... Il ne cache pas son amertume, c'est de la faute des syndicats si la mobilisation.
Donc s'il y avait eu une unité syndicale, mais elle était sans doute difficile, ne serait-ce qu'à cause de la position de la CFDT, sans doute était-elle difficile. Moi, je ne suis pas syndicaliste, je suis responsable politique, donc je ne leur jette pas la pierre. Je dis, quelle est notre responsabilité à nous comme force politique? Nous rendre disponibles si les syndicats nous disent à ce moment-là, mettons-nous ensemble dans la rue. Voilà. Et deuxièmement, faire le travail de contestation, d'argumentation qui permet d'éveiller les consciences sur la gravité du moment que nous traversons et sur la nécessité du nombre mobilisé. S'il n'y a pas le nombre mobilisé, alors nous allons continuer, comme ça s'est fait en Angleterre, à prendre les coups. À prendre les coups sur la casse de nos protections et de nos droits, sur un partage des richesses qui se fait au profit des plus riches, qui est quand même assez incroyable.
C'est la technique du bélier telle que l'a définie Jean-Luc Mélenchon. On cogne, et la forteresse finira bien par tomber.
On se rebelle, en tout cas, bien sûr. On va pas dire merci, non, mais vous rendez compte. Mais bien sûr, continuez à donner des milliards. On a un trou de la Sécu qui est de 5,2 milliards. Au nom de ce trou de la Sécu, on nous explique qu'on va dérembourser des soins, qu'on va fermer des lits, ou en tout cas, certainement pas en ouvrir
vous
davantage,
etc. Vous prenez une espèce
etc.
de purge à ce niveau-là.
Voilà, et 5,2 milliards, c'est même pas le montant des cadeaux qui ont été faits aux plus riches. Vous avez 3,5 milliards pour ce qui concerne l'ISF, mais vous avez encore 1,3 milliard pour ce qui concerne la taxe flat et encore des milliards de niches fiscales. Au total, c'est 9 milliards de cadeaux. Et on nous dit que les 5,2 milliards de l'assurance maladie, du fameux, de ce qu'on appelle le trou de la Sécu, d'ailleurs comme si l'assurance maladie devait être équilibrée, comme si c'était une entreprise, c'est complètement absurde. C'est un effort de solidarité, elle ne doit pas être rentable, elle doit être utile.
Est-ce qu'économiquement, ça peut avoir un sens? Est-ce que ça peut mener à un mieux-être, en tout cas économique pour le pays, à votre sens, ou pas du tout, on fait véritablement fausse route?
Ah ben oui, par ailleurs, tous les pays européens ont tenté ce type de mesures, ça crée de la récession économique, ça creuse les inégalités partout. Alors on peut faire comme en Allemagne, transformer, même si la situation de l'Allemagne n'est pas tout à fait la même que la France, il faut faire très attention, mais en Allemagne, effectivement, on peut résorber le chômage en créant des travailleurs pauvres en masse. Oui, ça c'est toujours possible, on peut faire ça, mais ça ne résorbe pas les inégalités. Par ailleurs, les restrictions budgétaires imposées par l'Union européenne, pour le coup avec la règle d'or, elles ont un effet sur l'activité économique. Ça crée de la récession économique. Même le FMI, vous voyez, c'est pas une instance gauchiste, s'alarme aujourd'hui sur ces politiques-là et dit attention, arrêtez, parce que là, il y a un trop-plein dans le système financier et cela ne permet pas d'avoir une économie qui est une économie dynamique et juste.
Donc la France court au désastre avec la politique mise en œuvre par
le président
Macron
certain.
5 mois après son arrivée.
Oui, je pense que nous courons en effet à une catastrophe sociale d'ampleur. Tout à fait.
Je voudrais en venir à un sujet dont on parle depuis plusieurs semaines, le sujet du harcèlement sexuel. On en a parlé évidemment dans le cinéma suite au scandale de Harvey Weinstein aux États-Unis. On commence à en parler en politique française, y compris au sein de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs noms qui ont été jetés un petit peu en pâture. L'ancien ministre Pierre Joxe, Jean Lassalle. Il y a aussi un député de La République En Marche. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte contre Christophe Arendt, député de la Moselle, accusé par une ancienne assistante d'agression et de harcèlement sexuel. La parole se libère, c'est un sujet qui vous touche en particulier. Est-ce que vous pensez qu'en effet la politique est tout sauf épargnée par ce phénomène ?
Oui, la politique, le monde du cinéma, mais en fait, quand vous regardez ce qu'a généré l'hashtag Balance ton porc, c'est un flot de paroles qui concerne tout un chacune. Il y a ces femmes courageuses qui, dans des milieux connus du grand public, ont lancé d'une certaine manière l'alerte, ont permis de donner une grande visibilité à des cas de harcèlement, d'agression sexuelle. Et puis, vous avez le flot de toutes ces femmes qui peuvent être caissières dans un supermarché, cadres dans une entreprise, qui se trouvent sous le joug de quelqu'un qui utilise son pouvoir et sa domination masculine pour tout simplement vous considérer comme un objet sexuel.
Mais c'est vraiment...
Et là, c'est un moment de rupture sociale, culturelle, politique que nous traversons, parce que le phénomène est massif, il est collectif.
C'est vraiment un mouvement de fond, c'est vraiment une page qui se tourne. On va s'arrêter à quelques noms.
On ne s'arrête pas d'ailleurs à quelques noms, parce que je constate chaque matin qu'il y a des nouveaux noms. Mais c'est pas tant le problème des noms, c'est le courage de ces femmes qui arrivent aujourd'hui à dire « ce n'est pas acceptable, je vais aller déposer une plainte, je ne peux pas supporter des hommes me considèrent de la sorte ». Elles redeviennent à ce moment-là pleinement sujet. Et ça, c'est très, très fort. Par ailleurs, moi, j'ai eu des témoignages de collègues masculins me disant, mais finalement, moi aussi, ça me remet en cause dans mon comportement. Peut-être qu'il y a des choses que je faisais, que je disais. Enfin, je ne parle pas de
ça leur était pas arrivé pendant l'affaire DSK. Ça leur était pas arrivé là, pendant l'affaire Baupin. C'est maintenant qu'il y a le hashtag.
Parce que l'affaire DSK, on était sur une affaire de viol. Là, on touche à des choses plus quotidiennes, encore plus quotidiennes, même si le viol est quotidien et c'est un phénomène de masse, mais je dirais que le harcèlement il touche y compris tout se tient, c'est la même, il y a une forme de continuum, c'est pas la même gravité mais il y a une forme de continuum, ça touche aussi au rapport de séduction, à la sexualité, c'est au fond, est-ce qu'on va libérer le désir, est-ce qu'on va accepter que la façon dont on se séduit, dont on a une relation sexuelle, elle se fait sur la base d'un respect mutuel, c'est-à-dire qu'on considère le désir de l'autre, c'est ça la question, est-ce que les hommes considère pleinement, s'intéresse au désir des femmes. Et moi, je pense que si on s'intéresse au désir des femmes, je parle des hommes, s'ils s'intéressent au désir des femmes, leur sexualité, leur rapport de séduction vont sans doute être plus riches, plus intéressants, plus libres.
À ce propos-là, alors que 53% des femmes disent avoir été harcelées ou agressées, on entend très peu d'hommes pour soutenir cette parole qui se libère. Donc, la page qui se tourne, peut-être elle a un peu du mal à se tourner.
Il y a un petit malaise, d'abord.
Un petit
malaise, question se sentir légitime sur la question. Après, je pense que ça va venir parce que c'est une question politique qui nous est posée.
Absolument.
On en parle, j'imagine, à l'Assemblée nationale.
Bien
il y a peut-être des gens, des femmes qui vous en parlent parce qu'elles connaissent votre passé, votre engagement sur le sujet,
c'est vrai.
Dont on n'a pas encore entendu parler, qui vont peut-être...
Oui, beaucoup de femmes se parlent d'abord. Ce qui est important. Le sujet de conversation s'invite à la machine à café dans toutes les entreprises, j'imagine, ou au dîner à la maison.
Dans les ascenseurs de l'Assemblée nationale, on a placardé des petites affichettes pour rappeler c'est quoi le harcèlement au cas... C'est un fléau particulier
Non, pas
à l'Assemblée.
Je tiens à dire que ça concerne l'ensemble de la société. Ce qui est clair, c'est que dans les milieux de pouvoir où les femmes y sont sous-représentées, c'est évidemment un lieu où ces phénomènes peuvent... s'amplifier. Mais ne croyons pas que la politique ou Hollywood sont les seuls espaces dans lesquels il y a du harcèlement. Ce serait totalement faux. Et j'espère que les cas des very important persons parlent à celles et ceux qui le vivent au quotidien dans des milieux évidemment ordinaires, populaires.
Il y a un cas qui a beaucoup fait parler, celui du député Arendt, dont on vient d'apprendre qu'une information judiciaire, enfin préliminaire, avait été ouverte. La ministre du droit des femmes, Marlène Schiappa, juge que, s'il est mis en examen, il devra quitter l'Assemblée. D'aucuns soutiennent qu'il devrait partir dès à présent, ou au moins être suspendu. Vous en pensez quoi ?
Oui, ça me paraît une bonne idée pour lui.
Il devrait partir maintenant ?
Oui, je pense que c'est une bonne idée.
Eh ben, ça sera les mots de la fin.
Effectivement, et je voudrais saluer le courage de cette femme qui a témoigné, parce qu'elle a donné, y compris des détails, qui permettent de mieux comprendre ce qu'est le harcèlement.
Merci beaucoup d'être passé par RFI. Dans un instant, après les infos, notre deuxième invité, David Rachlin du Front National.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour sur le plateau de Mardi politique sur France 24 et RFI, toujours avec Véronique Rigolet. Et notre invité pour cette deuxième partie est David Rachlin, maire de Fréjus. Sénateur, il a été le directeur de la campagne présidentielle de Marine Le Pen et suite au départ de Florian Philippot, c'est désormais lui qui est en charge de la communication du Front National. Tout d'abord, je veux commencer par une image historique, c'est celle du Bundestag, le Parlement allemand, où pour la première fois depuis 1945, des députés d'extrême droite siègent ceux de l'AFD au nombre de 92. Pour beaucoup d'Allemands, c'est un choc. Et pour vous ?
Je ne suis pas allemand, c'est le peuple allemand qui a voté récemment dans le cadre d'élections démocratiques. Et donc je crois que les Allemands ont souhaité envoyer un message, comme dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne d'ailleurs, de fermeté vis-à-vis de l'immigration massive et incontrôlée, de fermeté vis-à-vis de l'Union européenne qui prend toujours plus de place et qui laisse de moins en moins de liberté aux nations. Je crois que c'est ce message-là qui a été envoyé. Par ailleurs, je ne partage pas tout avec l'AFD, je vous le dis tout de suite. Je crois d'ailleurs qu'à l'intérieur même de l'AFD, il y a un certain nombre de débats, un certain nombre de gens qui sont partis, avec lesquels nous avons des relations, d'ailleurs, Madame Frocke-Petry, je crois. Mais c'est un choix démocratique qu'il faut respecter.
Très bien. Et est-ce que vous pensez, on a dit après l'élection d'Emmanuel Macron, que la vague populiste, entre guillemets, en Europe, c'était... arrêté. On a vu donc les élections en Allemagne, on a vu des élections en Autriche où le parti d'extrême droite est en négociation pour faire partie du gouvernement. On a vu un candidat populiste, entre guillemets, gagner les élections en République tchèque. Du coup, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron était peut-être un accident dans cette vague populiste ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate, vous l'avez constaté aussi, une progression des mouvements patriotes dans l'ensemble des nations européennes. Toujours pour les mêmes raisons, encore une fois. Parce que l'Union européenne confisque nos libertés, parce qu'elle refuse, par exemple, que nous puissions contrôler nos frontières migratoires, c'est vrai, mais aussi nos frontières commerciales, nos frontières économiques. On en reparlera peut-être avec la directive détachement des travailleurs. Et à chaque fois, c'est vrai que le peuple se lève face à cela parce qu'il est, lui, il veut sa liberté, il veut pouvoir récupérer sa souveraineté, il veut être libre. Et on le comprend bien, et c'est vrai que c'est aussi notre combat, nous, en France, que de voir notre pays retrouver sa pleine souveraineté, sa pleine liberté.
On pourrait poser la question à l'inverse. Hein. Marc évoquait Macron qui aurait été l'erreur dans ce tableau de progression des populismes. Est-ce que... c'est pas Macron, justement, qui a affaibli le Front National en France et qui a réduit, en quelque sorte, la poussée que vous auriez pu espérer il y a encore quelques mois.
J'ai eu l'occasion de constater, comme directeur de campagne, qu'au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait rassemblé près de 11 millions de voix, un score que notre mouvement politique n'avait jamais atteint. Nous avons continué à progresser, donc, y compris lors de cette élection présidentielle. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas là.
Vous auriez pu espérer plus de députés à l'Assemblée nationale.
On aurait pu espérer plus de députés.
Un meilleur score.
On aurait pu espérer même gagner l'élection présidentielle. C'était notre souhait, vous l'avez bien compris. Pour autant, nous avons écrit une nouvelle page de l'histoire de notre mouvement politique. Nous allons continuer à en ouvrir de nouvelles avec la refondation qui est en cours, avec comme objectif clair, bien sûr, de prendre le pouvoir, d'être aux responsabilités pour changer radicalement de politique, bien sûr.
Et peut-être maintenant définir un nouveau programme, puisque là, on est un peu en peine d'en trouver un. Marine Le Pen a toujours beaucoup de mal à s'expliquer sur la question de la monnaie unique, de l'euro. On avait présenté la semaine passée son interview sur France 2 comme une espèce d'oral de rattrapage. On n'a toujours pas bien compris, au terme de ces deux heures, quel est le positionnement du Front National sur la monnaie unique.
Mais je peux vous expliquer si vous souhaitez.
Eh bien alors, c'est parfait. C'est...
Avec plaisir.
Il n'aurait pas deux heures.
Je m'en doute. Pour autant, je crois que Marine l'a dit extrêmement clairement, nous avons eu un séminaire il y a quelque temps où nous avons rappelé que l'objectif central de notre mouvement politique, c'était le retour de nos souverainetés. D'abord et avant tout, nos souverainetés migratoires, économiques et commerciales, parce qu'elles sont absolument essentielles. Nous sommes aujourd'hui les victimes d'une migration qui continue d'entrer sur notre territoire à la hauteur de 200 000 personnes chaque année au moins, légales, plus celles qui rentrent illégalement, nos frontières commerciales et économiques, pour faire du patriotisme économique. Parce que nous sommes soumis à une concurrence déloyale qui tue notre tissu industriel, qui tue nos agriculteurs, qui tue l'emploi. Donc nous voulons nous protéger. Et ensuite, nous gardons comme objectif, bien sûr, de retrouver notre souveraineté monétaire pour pouvoir agir sur notre compétitivité, pour pouvoir agir dans notre pays sur l'emploi. Mais cela viendra en fin de cycle.
C'est quoi la fin de cycle ensuite? On parle de combien d'années? De 10 ans? Parce que c'est là où le flou réside.
C'est le temps de la négociation. C'est le temps du débat dans le pays. Ce sera le temps, oui, des négociations avec l'Union européenne, qui, avec d'autres pays peut-être. Nous réclamerons avec d'autres pays. Vous voyez bien que partout en Europe, encore une fois, se lèvent des voix pour réclamer nos souverainetés.
Mais pour in fine sortir de l'euro ou pas?
C'est extrêmement clair. Notre souveraineté monétaire reste un objectif.
Donc sortir de l'euro, c'est ça que ça veut dire?
Oui, bien sûr. Avoir bénéficié, en tout cas, de notre monnaie nationale, comme l'ensemble des pays du monde d'ailleurs. Il y a juste dans la zone euro qu'il y a cette anomalie, mais enfin partout dans le monde, les nations disposent de leur monnaie pour agir sur le pays et sur l'emploi et sur la compétitivité des entreprises. Alors, cela ne viendra pas en priorité parce que nous avons entendu les Français, que nous voulons laisser la place à la négociation, au débat, qui est clair.
Alors, c'est pas si clair pour Florian Philippot. On va l'entendre sur la position sur l'euro, mais aussi sur la capacité de Marine Le Pen à devenir présidente. On l'écoute.
Quand vous dites sur l'euro, par exemple, on va voir.
Oui.
Soit on est pour l'euro, c'est à peu près tout le système. Soit on pense qu'il faut construire une nouvelle monnaie nationale pour l'emploi, mais on peut pas dire on va voir sur des sujets aussi fondamentaux.
Est-ce qu'elle peut devenir présidente de la République?
Vu l'évolution actuelle d'un front national qui se rétrécit, je ne pense pas.
Un front national qui se rétrécit, Marine Le Pen ne sera pas présidente, dit Florian Philippot.
Mais il est logique qu'il dise cela, puisqu'il a choisi de faire lui-même un mouvement politique et d'avoir une aventure personnelle. C'est son choix. Pour autant, moi je crois que c'est notre mouvement politique qui est le plus capable de défendre nos opinions, nos convictions et de les mener au pouvoir. Et au-delà même de notre mouvement politique, je pense que c'est Marine Le Pen qui est notre dénominateur commun et qui est celle qui est en effet en mesure de nous amener aux responsabilités. On l'a vu lors des différentes échéances, elle a continué à faire progresser notre mouvement et elle le fera.
Mais le doute s'est instillé, vous le savez, lors de ce fameux débat, le doute est là.
Le doute est là, peut-être dans l'esprit de Florian, c'est ce que je crois comprendre, mais moi
dans
je
le
suis...
doute de vos militants aussi.
Il n'y a pas une crise de confiance avec les militants qui regardent même plus la patronne quand elle donne sa grande
interview. Figurez-vous que Marine a décidé de faire dans le cadre de notre refondation une tournée dans l'ensemble des régions de notre pays. Elle était, je crois, dans le Morbihan hier, dans le Vaucluse, dans ma région, il y a quelques jours. Il y avait des centaines de personnes très enthousiastes, heureux de pouvoir s'exprimer, parce que nous allons leur laisser la parole à travers un questionnaire, heureux de pouvoir s'exprimer, heureux de pouvoir nous dire ce qu'ils pensent, mais extrêmement enthousiastes à l'idée, en même temps, de mener les combats futurs, les élections européennes. Je n'oublie pas les élections territoriales corses qui approchent et les élections municipales ensuite. Je crois qu'ils sont enthousiastes. Vous avez vu d'ailleurs un sondage récemment qui dit clairement que Marine ferait au moins autant que lors du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, il ne se rétrécit pas, notre mouvement. Au contraire, il va continuer à progresser, j'en suis sûr.
Mais alors, pourquoi cette désaffection médiatique? Pourquoi ces gens-là n'étaient pas devant leur poste pour regarder la...
Non, mais Marine elle-même a dit qu'elle n'avait pas fait un débat très performant. Cela arrive,
mais au mauvais moment.
Elle a fait une très bonne émission, vous l'avez sans doute regardée sur France 2 récemment.
C'est celle dont je parlais, ça fait un vrai flop télévisuel. 1,7 million, c'est moitié moins que ce que j'ai
trouvé
habituellement. Donc il y a un désintérêt, même de la part de vos militants.
Moi j'ai trouvé Marine très performante ce soir-là. Un flop, c'est plus d'un million.
Flop médiatique, je parle.
Plus d'un million et demi de personnes tout de même qui étaient devant leur écran de télévision ce soir-là. Je crois que les Français.
Pas de désintérêt. Ouais.
Je crois que les Français aussi ont vécu des cycles électoraux importants récemment, qui se reconcentreront sur la politique peut-être un petit peu plus tard, et que la politique n'est plus peut-être le premier centre d'intérêt en ce moment. C'est possible aussi.
Alors je vais en venir juste à une décision qui a été prise hier par les ministres du Travail de l'Union européenne sur la question des travailleurs détachés, un durcissement fêté par le gouvernement comme une preuve que la méthode Macron marche en Europe, pour protéger les travailleurs. Vous vous êtes toujours prononcé pour l'abrogation de cette directive. Est-ce que vous admettez que la France a fait un pas en avant ?
Non, elle a fait éventuellement au mieux un pas de côté, mais certainement pas un pas en avant. La réalité, c'est que le principe du paiement des charges au tarif des pays d'origine, et donc une concurrence déloyale tout à fait absurde, continuera de frapper notre pays et nos entreprises et nos emplois. La réalité, c'est que la réduction du délai, puisque c'est ça les petites mesurettes qui ont été prises par les gouvernements, la réduction du délai de 24 à 12 mois pour les missions sera contournée, évidemment, on le sait, par la rotation des travailleurs. Et donc ça ne changera rien. Il fallait, par un acte courageux, et M. Macron d'ailleurs l'avait dit pendant sa campagne, abroger de manière définitive la directive détachement des travailleurs. Je rappelle d'ailleurs que il y a un sacrifice peut-être qui a été fait, c'est les transporteurs routiers, le domaine du transport routier qui lui est écarté de ces petites mesurettes. Non, la réalité c'est qu'on continue à être, parce qu'ils sont philosophiquement attachés à cet ultralibéralisme, on continue à être soumis à une concurrence déloyale via la directive détachement des travailleurs, mais pas seulement, via des concurrences déloyales multiples en termes de non-respect du temps de travail, de conditions d'hébergement hallucinantes, de fraudes diverses et variées, à cette concurrence qui tue, je le disais tout à l'heure, notre modèle économique et notre modèle social. Alors il faut changer de modèle économique. On voit bien que celui-là ne fonctionne pas et continuera à aggraver la situation des travailleurs de ce pays et de nos entreprises. Il faut changer de modèle économique et protéger véritablement. L'Union européenne se refuse à le faire. Il faut que ce soit la nation qui le fasse. Nous, nous croyons en la nation comme étant le modèle le plus performant pour défendre précisément notre économie et bien d'autres choses d'ailleurs, aussi notre identité, notre
voilà
culture.
Mais avant toute chose, dites-vous, dans votre programme, la reconquête voilà territoriale, hein, nos frontières, voilà, c'est la question qui va vous animer dans les prochains mois. Il y a donc cette tournée de reconquête que vient d'entamer Marine Le Pen et qui passera bientôt chez vous, et ce questionnaire envoyé aux adhérents. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce questionnaire, de quelles questions
postons
à vos adhérents?
Je veux laisser la
en cette période un peu compliquée pour vous.
La possibilité pour les adhérents de le recevoir d'abord avant d'en parler publiquement. Mais beaucoup de choses, d'abord sur eux, pour mieux les connaître, et aussi un certain nombre d'éléments sur notre projet politique, sur les grandes orientations.
Sur l'euro, par exemple, ça figurera.
Mais tous les sujets seront abordés, en effet, y compris celui-là. Okay. Les grandes orientations de notre... Et notre stratégie sera abordée parce que nous voulons savoir et être en adéquation, évidemment, avec nos adhérents. Mais je pense que déjà, ils sont d'accord avec l'essentiel de ce que nous défendons.
Sinon, si vous pensez qu'ils sont déjà d'accord.
Sinon, ils ne seraient pas des adhérents du Front National. Mais sur quelques petits points stratégiques, peut-être est-il intéressant, oui, de les consulter, bien sûr. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons.
C'est une démarche similaire à celle qu'avait faite Emmanuel Macron, le candidat Macron en campagne, non ?
Pourquoi pas ? Si Monsieur Macron,
il vous inspire déjà, non ?
Il n'irait peut-être pas jusque-là, madame, mais pour autant, s'il y avait eu des initiatives heureuses pendant sa campagne, en tout cas, nous avons toujours été essayé, en tout cas, nous avons toujours essayé de faire vivre la démocratie à l'intérieur de notre mouvement politique. Il y a un congrès qui approche.
Il y aura une seule candidate.
Des élections internes. Oui, parce
un congrès avec une seule candidate.
La démocratie avec un seul candidat pour être leader, c'est pas très démocratique.
Il y aura des élections. Ben, il fallait que peut-être un autre candidat se déclare.
Vous l'avez pas verrouillé, non ?
Non, nous n'avons rien verrouillé. Les statuts sont
Éric
très clairs.
Éric Delisle aurait souhaité participer.
Très ouvert, au contraire, et permettre très honnêtement à n'importe qui d'être n'importe quel dirigeant de notre mouvement ou adhérent de notre mouvement d'être candidat. Je crois que tout le monde est d'accord à l'intérieur pour dire qu'aujourd'hui, Marine, c'est vrai, est la plus efficace comme présidente, est la plus efficace pour être candidate à l'élection présidentielle, est celle qui nous rassemble, qui est la plus performante.
Mais pourquoi donc, décider avant un congrès ? C'est un peu absurde.
Mais non, mais on décide pas avant un congrès.
Vous avez présenté un seul candidat.
Non, mais on ne présente pas un seul candidat. Il y a un seul candidat qui s'est déclaré, ça n'est pas de notre fait, sauf à forcer les gens à être candidats, on ne peut pas les forcer.
Si, il y aura Éric Delisle, c'est élu lillois qui aurait aimé participer.
Je vais vous en parler si vous souhaitez. Il y aura par contre des élections internes, le renouvellement de nos instances, de notre conseil national ou de notre comité central en l'occurrence, avec, je crois savoir qu'il y a déjà plusieurs dizaines, voire centaines de candidats. Donc vous voyez, la vie démocratique est assurée.
Est-ce que Marion Maréchal Le Pen doit revenir maintenant que Florian Philippot, son ennemi juré, a quitté le parti avec armes et bagages? Est-ce que c'est le moment, vous pensez, pour Marine Le Pen de tendre la main à Marion Maréchal Le Pen, qui a quand même représenté quelque chose, qui représente quelque chose dans votre région et dans votre parti?
Mais Marion était une excellente députée, quelqu'un de très apprécié dans notre mouvement, cela ne fait aucun doute. Mais elle n'est pas partie, que je sache, pour des raisons politiques, ni à cause de telle ou telle personnalité, ni à cause de désaccords. Elle l'a dit d'ailleurs de manière claire. Elle est partie parce qu'elle voulait, si je vous retrouverai sa lettre ouverte aux Vauclusiens, parce que c'est à eux qu'elle s'est adressée en priorité, et elle l'avait dit de manière claire. Elle est partie, elle s'est retirée de la vie politique pour des raisons personnelles d'abord, un projet personnel, je crois professionnel en l'occurrence, et aussi pour des raisons familiales, je crois que
vous aimeriez qu'elle revienne.
Mais on ne peut pas forcer quelqu'un, là encore. Vous avez bien des
votre sentiment à vous.
Vous voulez forcer des gens à être candidats, forcer Marion à revenir. Les gens sont libres, monsieur. Ils décident, ils font leur choix. Et je ne veux pas.
C'est un atout pour le parti. Vous le savez.
Mais évidemment, plus on est de parlementaires connus, reconnus, mieux c'est, bien sûr. Pour autant, elle a fait un choix. Moi, je respecte ce choix. Et la vie de notre mouvement politique va continuer. Et nous allons continuer à faire émerger un certain nombre de nouvelles personnalités. Vous connaissez maintenant un petit peu Jordan Bardella. Vous connaissez maintenant Sébastien Chenu et quelques autres. Julien Sanchez, le maire de Beaucaire. Ces nouveaux talents doivent émerger et contribuer à faire évoluer encore notre mouvement politique.
Dans un parti, dites-vous, complètement démocratique, est-ce qu'un jour, donc, on pourrait imaginer un Front National sans un ou une Le Pen à sa tête? Vous-même, vous avez 29 ans, vous allez jouer les apparatchiks dans ce parti le restant de vos jours. Enfin, comment ça se passe concrètement dans cette grande démocratie que le Front National?
Je suis maire d'une
absolument,
ville
vous êtes élu, j'ai dit élu.
Habitants.
J'ai dit apparatchik ou élu.
Et j'étais sénateur il y a encore quelques semaines. Je ne le suis plus à cause de la loi sur la fin du cumul des mandats. Mais bien sûr que toutes les personnalités sont les bienvenues à l'intérieur. Bien sûr que on peut avoir d'autres responsables à la tête de ce mouvement politique. C'est aux adhérents de décider. Et il y a un vote. D'ailleurs, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était en 2011, Bruno Gollnisch était candidat face à Marine Le Pen. Et il y avait un autre candidat et les adhérents ont tranché, ils ont élu massivement Marine. Ils ont continué à l'élire ensuite parce qu'ils ont fait le même constat que moi. C'est une excellente présidente, une excellente candidate et elle est la mieux placée pour défendre nos convictions et pour porter notre mouvement politique. Vous dire ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on se reverra sans doute et on pourra en reparler.
Ce qui se passe en ce moment, politiquement, c'est qu'on Laurent Wauquiez va visiblement devenir le leader des Républicains, sans aller jusqu'à savoir s'il est prêt à s'allier ou pas avec vous, ce qu'il nie, ce que vous niez. C'est quand même un problème pour vous, parce que son positionnement politique n'est clairement pas le même qu'un Alain Juppé. C'est clairement quelqu'un qui peut faire ce que Nicolas Sarkozy a fait en 2007, à savoir siphonner vos votes.
Je crois pas trop, très honnêtement, parce que les Français ne sont pas dupes. Parce qu'ils ont vu à l'œuvre Nicolas Sarkozy qui a laissé rentrer plus d'immigrés dans notre pays, d'étrangers dans notre pays, que Lionel Jospin. Monsieur Sarkozy avait en son temps supprimé, et Monsieur Wauquiez appartenait d'ailleurs à son gouvernement, je crois. Monsieur Sarkozy avait supprimé la double peine. Il a mis au pouvoir... dans la direction du culte musulman, au Conseil français du culte musulman, l'UOIF, qui est une organisation extrémiste dont nous demandons, nous, la dissolution. Il n'a rien fait pour protéger les Français face à la concurrence déloyale, face à l'Union européenne. Jamais ils n'ont véritablement protégé la France.
Wauquiez n'est pas Sarkozy, forcément.
Et pas plus que Sarkozy ne l'a fait à l'époque, Monsieur Wauquiez ne le fera demain. Eh bien, parce que moi, je crois que profondément, il fait du marketing électoral. Alors, il veut aujourd'hui bomber un peu le torse, montrer les muscles, mais une fois qu'il est aux responsabilités, une fois qu'ils sont aux responsabilités, ils nous ont à chaque fois fait le coup, la droite. À chaque fois, ils se font élire sur des valeurs de droite, un peu durs, et ils font la politique de la gauche, parfois même pire que la politique de la gauche. Je vous ai pris l'exemple de l'immigration avec un taux plus important sous Nicolas Sarkozy que sous Lionel Jospin. Alors les Français rejettent désormais, je le crois en tout cas, et on l'a vu à l'élection présidentielle, la droite n'était pas au second tour de l'élection présidentielle, parce que les Français rejettent ce mouvement politique qui manifestement trompe ses électeurs à chaque fois qu'ils sont aux responsabilités.
Très bien, mais écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Merci Véronique, merci David Raffine et merci à vous d'avoir regardé cette édition de Mardi Politique sur France 24 et de l'avoir écouté sur RFI.